Donc on en était à la page 14 du texte Mort et non mort, transmission du yoga de Poa en Sukhavati. Donc il y a plusieurs Poa en tant que sadhana pratique. Hein. Le principe est le même, bien sûr, et le moment de l'exécution de ce Poa sera le même. D'accord. Donc ce matin je te disais, il y a un poa du Nirmanakaya, un poa du Sambhogakaya et un poa du Dharmakaya qui sont ultimes. Hein. Et on peut montrer, on peut dire aussi que le Mahamudra lui-même est un poa. Il est tout. Il rassemble tous les yogas. On peut faire des poas avec. Alors quand on fait des poas avec divinité, au sens tantrique du terme, on peut dire que c'est un poa du Sambhogakaya. Il y en a avec différentes divinités. Je ne connais pas tous. On pourrait en prendre n'importe quelle divinité ou en faire un poa. D'accord ? Si on a une divinité de prédilection, qu'on a vraiment une bonne réalisation de ce qu'on entend par Yidam, de cette divinité. Hein, c'est un lien à la nature primordiale de l'esprit, et non pas une idolâtrie, hein, où on pense à une divinité extérieure. Mais quand on fait le lien avec notre... par le biais d'une divinité, on arrive à faire le lien avec notre nature primordiale, l'union de clarté et vacuité, c'est le sens du saut et Yidam. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à improviser son poa. Tu comprends? Si c'est Vajrayogini, Manjusri, etc. Hein, voilà. Si on comprend bien les tantras, on peut être l'artisan de sa propre pratique après, bien sûr, heureusement. Dans le cadre de la sadhana, de la pratique du tantra d'Amitabha. Donc il y a les pratiques de yoga. D'accord. Il y a le yoga du rêve, celui que je connais hein, dans Amitabha, et le yoga de Poa. On peut imaginer peut-être d'autres, je n'ai pas toutes les transmissions. Ce Poa associé à Amitabha, c'est celui qu'on donne très facilement. Alors souvent, les personnes disent on le donne tout public hein, et qu'il y aurait des transmissions secrètes qu'on ne donnerait pas au public. C'est pas comme ça que ça marche. S'il y a une pratique qui peut éveiller quelqu'un, on la donne. Disons, c'est comme les antibiotiques, c'est un large spectre. Souvent, les Rinpoché ou les grands lamas, ils ont des fois, ils donnent un enseignement, c'est un programme dans un centre, on leur dit donnez cet enseignement, vous voyez, et ils ne savent pas à qui ils ont affaire, ils sont inscrits à un centre, je ne sais pas, même à lui, ça doit se passer comme ça. Tu t'inscris, le lama ne te connaît pas, et il t'envoie la pratique d'Amitabha. À Kaguni, c'est ce qui se passait. Hein. On mettait un programme, le yoga de Poa, hein, sur le programme. Parce que ça fait venir du monde, grosso modo. Mais ça part d'une bonne intention, hein. Je ne fais jamais de procès d'intention. Mais voilà, en discutant avec certains lamas bhoutanais à Kegling à l'époque, ils disaient que j'avais moi la chance de pouvoir connaître les gens à qui je transmets. Quoi. C'était une relation vraiment d'élève à instructeur. Et, voilà. Mais la Matsunam, par exemple, au début, il avait aussi transmis sous Cassidy, mais après c'était du tout venant, il ne savait même plus où il en était. Et comme c'était dans le programme, bah, tu assumes. On peut faire comme ça, c'est pas un problème. C'est une sorte de... faire un peu comme les attrape-mouches, on va dire, au départ. Et si ça soulève des mérites, hein, des fois on déclenche des potentiels de vie antérieure. Et dedans, ce sort du lot une personne qui va ensuite établir un lien bien précis avec le lama qui enseigne. C'est là que ça commence, vraiment. Mais sinon, j'ai croisé des gens qui faisaient un stage sur un autre. Hein. Ils disaient avoir des dévotions pour le lama qui enseignait, mais quand je leur posais la question, enfin, quand je venais à Kaguli, ils me posaient plein de questions. Je lui dis, mais t'as ton lama? Ah non, mais je ne te dérange pas, lui. Ah bon? Tu vois? Alors si t'as un lama, c'est entre quatre yeux. Tu vois? Et donc, des fois, j'entendais lama Tenpa, lama Sonam aussi déplorer cet aspect-là. Mais, bon, ils l'ont établi aussi. Hein. Mais c'est le fait des grands centres. Mais je ne veux pas dire que les grands centres n'ont aucune utilité. J'en sors, hein. J'en viens. C'est une véritable matrice, une véritable école, hein. Et une transmission véritable. Mais on risque de se laisser aller dans un mouvement, hein, d'attendre qu'on nous propose un programme. Et il faudrait insister plus sur l'idée, c'est ton aspiration t'appartient. Moi, j'avais un programme, je ne suivais pas le programme de Kaguling, j'étais résident. J'ai été voir un lama, je dis, voilà, je suis tout nouveau, là, je veux m'éveiller. C'est une aspiration que j'avais depuis fort longtemps, hein, etc. Ça ne s'appelait peut-être pas comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, je veux m'éveiller, et puis j'ai commencé comme ça. Et puis le programme, je l'avais parce que, en fonction de ce que j'aimais, etc., etc. Donc Amitabha, c'est pas parce que c'est le grand public, hein, avec une sorte de, tu vois, de condescendance, on va ordonner Amitabha, allez. Non, c'est parce que quand on enseigne à la louche comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. D'accord? On est sûr de ne pas se tromper parce que tous les gens qui vont être dans le temple, ils sont là parce qu'ils sont nés du désir. D'accord? Ils sont nés du désir pour avoir eu un corps humain, déjà. Pour moi, c'est avoir associé à un moment donné chair et charité. Et en plus, par leur raisonnement, leur discernement, eh ben, ils ont fait la part des choses, arrivé à un certain âge, où ils font une part des choses entre ce qui est satisfaisant et insatisfaisant. Et avec un regard sur nos insatisfactions, on s'écoute. Avoir de la satisfaction, c'est. Des gens bien ont de la satisfaction. Hein, et si on s'écoute, eh ben, on commence à se respecter et avoir d'autres perspectives, d'autres exigences de sa vie. Et donc, quand on ne connaît pas le public à qui on a affaire, on doit enseigner à la louche, à la cantonade, eh ben, on ne se trompera pas en faisant un mitaba. Et il ne faut pas se dire, ouais, mais c'est pas un petit, c'est un petit poa, mais il y a le poa de Sukhasiddhi, il y a le poa de Naropa, hein, c'est vachement un secret, etc. Là, on se trompe. Si on fait une hiérarchie. Déjà, tu n'auras pas l'accueil suffisant, hein, pour voir la grâce du yoga le tantra d'Amitabha. Et c'est suffisant pour s'éveiller. C'est pas parce que ce serait un tantra dit secret qui va nous éveiller plus. Si on a cette attitude-là de hiérarchie, hein, et ben, on ne sera pas présent dans la grâce, la chance qu'on s'est donnée nous, à nous-mêmes, en venant dans un centre. Tu vois. Et donc, ça fait déjà un petit paramètre qui va faire qu'on va se faire des obstacles. Tu comprends? On est né du désir et Amitabha, c'est vraiment donc la famille Pema, Lotus, qui a pour intelligence, l'intelligence inhérente au désir, qui est la sagesse du discernement, l'intelligence du discernement. Et les gens qui viennent à un centre, il faut les respecter. Ils ont une aspiration suite à un discernement entre satisfaction et insatisfaction. Même si ce n'est pas le grand bonheur, la grande félicité, on peut avoir des satisfactions, on les met là, bon, on les a, ça marche un temps, autant en profiter, parce que c'est impermanent aussi, les satisfactions. Mais on a des insatisfactions, d'accord, qui vont être utilisées, en quelque sorte, hein, qui vont être la base d'une interrogation, d'un questionnement, d'une exigence, et ça se respecte. D'accord? Donc c'est le tantra d'Amitabha et le poa d'Amitabha est vraiment opportun à cette situation. Ensuite, tu as déjà eu des enseignements d'Amitabha. Donc, bien sûr, il y a l'aspect hagiographique des sutras d'Amitabha qu'a donné l'amidisme aussi, qui est plus dans une certaine religiosité. Hein, on récite le mantra, et voilà, etc. Ça peut être une démarche, hein, d'accord. Donc, on fait bien une distinction entre sutra d'Amitabha, le sutra du lotus, machin, avec tantra. Même si les textes fondateurs sont les mêmes, l'approche tantrique, hein, ça veut dire une approche d'intériorité et de compréhension des phénomènes, hein, que provoque l'esprit. Mais si on reprend la géographie d'Amitabha, on dit c'est un avant d'avoir été un Bouddha, comme tout le monde, hein, il y a un avant. Un après, mais avant d'avoir été un Bouddha, eh ben, il a senti cette insatisfaction de l'existence conditionnée. Il a ressenti qu'il y avait des illusions, etc. Et donc, il a amorcé une aspiration à l'éveil. Et cette aspiration à l'éveil, il l'a notifiée, exprimée clairement, et accompagnée d'une motivation, très rapidement, d'une motivation Mahayana, une motivation, c'est-à-dire. Je veux m'éveiller pour aider les êtres. Je veux m'éveiller, c'est toujours soi-même le bénéficiaire direct, mais mettre à contribution cet éveil pour pouvoir aider les êtres, ça c'est le propre du Mahayana. Et Amitabha, donc, l'a exprimé clairement, il a pris refuge à une époque à un Bouddha, un être éveillé ou simplement un maître, pourquoi pas, hein. On s'est toujours magnifié, hein, les hagiographies. Si on dit qu'Amitabha a pris refuge à un lama qui est d'un petit village et il était le concierge de l'école, ça ira pas, hein, d'accord? Il faut toujours un peu hein, faire monter la sauce, quoi. Donc cette hagiographie, elle est très intéressante pour stimuler la foi. Non pas une foi qui délègue, c'est-à-dire une vénération. C'est pas pour stimuler la vénération pour Amitabha. D'accord? Stimuler que lui aussi est parti, hein, d'une existence d'un samsara, il est parti de ses insatisfactions et bah, il s'est exigé une aspiration et une motivation. Il s'est interrogé sur qu'est-ce que je veux maintenant? D'accord? J'ai un dukkha, j'ai des dukkhas, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux en faire? À quoi je me destine? C'est ça qu'on appelle l'aspiration à l'éveil. Hein, aller vers. Et en allant vers l'éveil, hein, ça devient un refuge. C'est pas l'inverse. Hein. Je vais vers un refuge. Je prends refuge dans le Bouddha. Non, je vais vers le Bouddha, je vais vers l'éveil. Hein, ce que représente la bouddhéité. D'accord? Et cela, j'exige que c'est un refuge contre dukkha. Une immunité, sinon ça ne m'intéresse pas. On va voir un médecin, et ben, on va vers un médecin hein, en lui demandant j'ai bobo, je veux la santé, mais pour moi, je ne sais pas les causes de ce bobo, pour l'instant, j'ai bobo. D'accord? Et donc, j'estime que vous devez me trouver la santé, et j'estimerai que j'ai recouvré la santé si j'ai plus de bobo. Ça, c'est ça, la première démarche. Hein. Ça va? Donc j'aspire à l'éveil, hein, comme seul refuge contre la souffrance. D'accord? Si ce n'est pas un refuge contre la souffrance, je n'estimerai pas ça l'éveil. D'accord? Et bien sûr, après, il y a plusieurs caractéristiques de l'éveil selon justement la force de l'aspiration et selon la motivation. Dans, je crois, le deuxième ou troisième concile, la réunion des Arates, là, ils sont aperçus que la motivation, l'aspiration et la motivation jouaient sur le fruit. Aujourd'hui, ça nous semble évident. Enfin, peut-être à l'époque aussi, mais ben, et pour certains, ça ne semblait pas évident. Il y a un seul fruit, point barre. Maintenant, l'aspiration et la motivation vont jouer. C'est pour ça qu'on met après la motivation à l'honneur. Bien sûr, on tend tous à l'éveil. On sera tous immunisés contre la souffrance, en tout cas, parce que c'est le minimum syndical, si j'ose dire. Le minimum minimum, c'est être nirvané. D'accord ? Et qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la puissance de la motivation. Si une personne s'en tient juste, se restreint, Ina, Yana, se restreint à ne plus souffrir, eh ben, tu peux tomber sur un médecin qui te donne un aspro. Ah, je suis content, médecin. Et le médecin, il te dit, revenez dans 10 ans, ou revenez dans 15 jours, et puis te revends des aspro. Il y a une arnaque quelque part. Le nirvana, c'est un peu la même chose. On prévient. Mais, des fois, par la force des choses, on peut être nirvané, mais on ne s'en tient pas là. D'accord ? Et on est prévenu. C'est qu'un nirvana. D'accord ? Mais le nirvana ne remplit pas le cœur. Parce qu'on est tous destinés. On a tous un devoir inhérent à nous-mêmes. C'est d'être utile à l'autre. Parce qu'on est né du désir. D'accord ? Et on se sent mal si on se sent impuissant, incapable, inutile. On se sent mal si on, même si on y met, on est sur la touche. Un bon joueur de foot il peut être sur la touche, mais je suis un bon joueur, je veux jouer. Et quand on l'appelle, waouh, il rentre en fonction. Ben, la bodhicitta, c'est ça, la motivation, de s'éveiller pour être mis à contribution. C'est ça, je veux être mis à contribution, mon nirvana veut être utile. Et c'est cette force-là qui fait que l'éveil se sublime lui-même. D'accord ? Parce qu'on va être en conformité à une nature inhérente de l'esprit. C'est pas l'éveil qui diffère. C'est simplement, on est plus dans notre justesse. D'accord ? C'est une motivation juste, appropriée, conforme à la nature même de notre être. D'accord ? Donc s'interroger sur aspiration, motivation, et à l'exemple de l'Amitabha. Et Amitabha, il pousse loin cette vertu du bodhisattva. Et c'est ça qui est intéressant dans la pratique d'Amitabha, en sachant bien que on joue sur le désir. D'accord ? C'est que le désir, si on est bien guidé, exauce. D'accord ? Si on ne projette pas le sens que nos désirs voudraient voir dans les choses. Si on veut le discernement, c'est le discernement. D'accord ? Qui exauce tout, c'est-à-dire on s'exauce parce que on fait appel au discernement, tout simplement. Et c'est ça qui rend une félicité. C'est d'être sûr qu'on est constamment, constamment, c'est, on peut toujours compter sur une force de discernement, la raison, la sapience. C'est ça qui donne une félicité. C'est pas un orgasme de l'esprit comme ça, d'accord ? Parce que ça rend une félicité due à la liberté et d'être un libre arbitre. C'est-à-dire un arbitrage lié au désir et on est libre parce qu'on ne se fait pas, on se leurre pas dans des fantasmes, c'est-à-dire prêter du sens que nos désirs souhaiteraient en espérant combler un manque. D'accord ? Je me souviens de ce matin. On n'est pas dans ce fantasme-là. Il y a un manque, je discerne. Il y a une satisfaction, je discerne. Il y a une insatisfaction, je discerne. C'est ça, pour moi, le véritable sens du discernement, c'est avoir son discernement constamment mis à contribution. Il y a des gens qui n'aiment pas le discernement. Parce que pour eux, c'est radoté, c'est rationnel, c'est la raison. Mais pour moi, c'est un peu le programme philosophique de Platon pour Socrate. Être éveillé, ils appelaient ça philosophe. C'est pas le philosophe d'aujourd'hui, Glucksmann ou BHL, quoi.
L'amour de la sagesse.
C'est l'amour de la sagesse, c'est la Sophia, c'est la Prajna. L'amour de la Prajna, on dirait. Et ils sortent d'une illusion, avec l'allégorie de la caverne, c'est se retourner, faire une giration et sortir de la caverne et voir les êtres souffrir dans leur illusion. C'est bouddhique, hein, d'accord. Donc être philosophe, c'est être Bouddha. Hein. Dans la bouche de Platon, Socrate et certainement tous les philosophes grecs. Hein. D'accord. C'est pas au sens aujourd'hui universitaire. J'ai fait une université, je peux m'appeler philosophe. Parce que tu connais l'histoire de la philosophie, tu sais expliquer ça, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est peut-être docteur en philosophie, peut-être. Donc l'intérêt, c'est pas Amitabha comme étant un être, un Bouddha, etc. C'est derrière, c'est au niveau tantrique, hein, ce qu'on entend par Amitabha, c'est une aptitude de la conscience. C'est une épithète de la conscience. On dit une qualité, mais il faudrait dire une qualification. C'est une compétence. Tu vois, tu as quelle qualification? Je suis médecin, toi plombier, hein, etc. Eh bien, il y a une qualification en l'esprit qu'on appelle Amitabha. C'est pas le nom d'un monsieur. D'accord. Et derrière ça, il y a discernement. Parce que Amitabha, ça veut dire lumière infinie. Mais lumière infinie, il y a un autre nom en tibétain aussi, Nang, Nangwa taillé, je crois. Nang est taillé, c'est-à-dire apparence infinie. C'est-à-dire toutes les apparences dans leur plénitude infinie, d'accord, hein, s'offrent à ton discernement. C'est-à-dire, tu n'as plus de zone obscure où tu ne voudras pas discerner, d'accord. La tristesse, non, c'est pas bien. Juste la joie, je veux bien discerner la joie pour avoir de quoi manipuler la joie et trouver des circonstances qui m'amèneront à la joie. Toi, là, tu resteras dans des vies conditionnées, avec des concepts de ce qui est joyeux, concepts de quelqu'un qui m'apporte de la joie, on reste dans le désir d'attachement. Donc, l'apparentialité infinie, ou lumière infinie dans le sens lucidité, hein, et que tout se présente, d'accord, et même pas peur, c'est ça l'idée. Même pas peur, j'ai du discernement. Et même face à la mort, face à la souffrance, à la satisfaction, j'aurai le discernement. Et c'est ça qui nous rend libres, à avoir accès à cette... Et on s'appartient à soi-même, et voilà. Donc derrière Amitabha, c'est ça. Hein. C'est cette qualification ou une aptitude qu'a la conscience, hein, quand elle se libère, justement, de l'illusion qu'on a vis-à-vis du manque quand il se présente, hein, l'illusion vis-à-vis du désir quand il se présente, d'accord, et se libérer totalement, bien sûr, de toute tournure d'attachement, se libérer de l'attachement. Il y a des degrés. On se libère de l'attachement, bon, c'est bien, mais on peut toujours avoir à recréer des systèmes avec le désir qui recréent du désir, de l'attachement, et ainsi de suite. Donc après, il faut se libérer d'une réalité du désir en tant que tel, hein, au sens que ça répondrait à combler un manque, d'accord, et ensuite réaliser la vacuité même du manque, qui est finalement la vacuité elle-même, le manque. D'accord. C'est une appréhension de la vacuité, le manque, d'accord, qui donne des dukkhas qu'on appelle vanité, des troubles devant la vanité. La vanité, je l'appelle la petite sœur de la vacuité, d'accord. Donc il y a toujours des degrés. Hein. Alors effectivement, si tu t'en tiens dans le Hinayana à ne pas souffrir, tu estimes, ça y est, je suis arrivé à mon niveau de compétence absolue, je ne souffre plus. Bon, c'est bien, pourquoi? J'ai plus d'attachement. Ouais, mais est-ce que c'est un blindage? Est-ce que tu t'es épargné plein de choses? Tu es entré dans un monastère ou dans une grotte? Tu vois jamais plus de pâtisserie ou de blonde? Bah, tu stimules plus l'attachement, d'accord, mais tu vois pas que tu as l'attachement quand même pour une fleur ou des choses comme ça. Enfin, on peut se restreindre et on s'estime heureux, d'accord. Alors effectivement, on peut dire oui, t'as un arat, on va dire. Alors, voilà, t'as une odeur de sainteté, on dit même. Hein. Alors, ça sent la sainteté, mais bon, c'est pas vivant. T'es pas dans une plénitude de risque, justement. Tu prends aucun risque, d'accord. Tu te confines. Hein. on a le droit de se protéger, utiliser une fuite, un recul pour se protéger, d'accord ? Mais en même temps, il faut se réessayer, quoi. Hein ? L'intérêt d'Amitabha, donc sur la base de ce désir, c'est que c'est vraiment notre domaine, le désir, en tant qu'être humain. Et que ce désir exauce, si on a toute l'intelligence du discernement. Mais il n'exauce pas, au sens que notre projection qu'on souhaiterait voir dans les choses. Il exauce parce qu'on se sait capable de raisonner, tout simplement. Et que ça percute sur une intelligence de vie, etc., etc. D'accord ? C'est vraiment le sens de la liberté, et plus que la liberté, le libre arbitre. Et tu sais de quel arbitrage il s'agit. C'est ça qui rend heureux au sens libre. Sens philosophique. Donc c'est pour ça que dans la géographie de Amitabha, on a besoin de la géographie. On a besoin de légendes, de mythes. Mais à travers les mythes et la légende, il y a des métaphores, des paraboles. C'est un langage à lui, tout seul. On en a besoin. Pour éveiller un peu nos espoirs d'enfants, enfin, nos rêves, il faut rêver aussi, l'éveiller un peu. Hein, c'est ça. Mais pas juste pour vénérer, par contre. Ah, lui, il est arrivé, ah, il a la chance. Non, je veux faire la même chose. C'est possible. Même Amitabha, un être du samsara, il est arrivé. Et ce qui est intéressant dans la géographie, hein, d'accord, c'est que, justement, à travers les promesses qu'il fait, alors, ce n'est pas des promesses au sens politique du terme, hein, d'accord ? Ce n'est pas des séductions, c'est des résolutions. J'affirme qu'une fois éveillé, ma terre pure, qu'on appelle Sukhavati, sera accessible à toute personne qui y aspirerait simplement. C'est fort. Il n'y a pas, tu dois la gagner, tu dois la mériter. C'est simplement, faites confiance à votre aspiration. Votre aspiration est habitée de discernement. Satisfaction, insatisfaction. Tu vois, l'aspiration, c'est le désir. Faites votre désir, vous aboutirez de votre chaîne. C'est peut-être un peu farfelu, c'est une anecdote que Ringo et Poché avaient expliqué quand ils étaient passés nous rendre visite. Un petit crochet comme ça, sympa. Et on lui avait demandé de parler de la mort, des Wachen, voilà. Il avait donné cette anecdote d'un Tibétain qui n'avait pas confiance en des Wachen, c'était un athée, on pourrait dire, un Tibétain, un athée bouddhique. Mais le lama, il dit, mais qu'est-ce que tu aimerais après ta mort? Moi, j'aime les saucisses, voilà. Ton paradis, ça m'intéresse s'il y a des saucisses. Quoi. Bon, c'est un peu bébête, mais pourquoi pas, hein. C'est pour montrer l'aberration de nos souffrances. D'accord. Et le lama, il dit, mais si, ah oui, dans votre chaîne, il y a des saucisses. Il y a des barbecues. Moi, c'est des barbecues, je dis, on va dire, d'accord. Il y a un barbecue avec des saucisses. Ah bon, oui, il suffit d'y aspirer, etc. Ça paraît un peu gnognant comme ça, hein, d'accord. Mais il faut voir derrière.
Une connexion.
Une connexion, et voilà. Sa saucisse, hein, c'est le fruit de son discernement entre satisfaction et insatisfaction. C'est peut-être des modes de compensation, d'accord. Mais tout est bon. C'est ça le problème. Tout est bon avec le désir. D'accord. Parce que même si c'est pas dans plein pot de son intelligence, d'accord, de discerner l'illusion, etc., non. Juste la foi peut suffire. Il faut avoir foi pour aller chercher une saucisse au paradis. Hein. Mais c'est, la foi fonctionne comme ça. Et c'est ça l'intérêt d'Amitabha. C'est qu'il fait la promesse que simplement par la foi, pas la vénération, attention. La foi, c'est une force, une résolution. C'est pas je vénère et je m'agenouille, enfin je m'écrase, hein, et que ça sera récompensé. Ça, ça marche pas. C'est ce qu'appelle faire le faillot. Non. La foi, c'est dire t'as du courage. La foi, c'est le contraire d'avoir les fois, les peurs. Hein. La foi, tu n'as pas peur. Ou si tu as peur, bon ben oui, mais j'y vais. D'accord ? C'est le courage, la foi. Poussé par la certitude que tes saucisses vont te satisfaire. Il faut voir au niveau phénoménologique, karmique, les rouages karmiques que ça fait. D'accord ? Et là, on peut aller chercher une saucisse sur l'Annapurna. Un amoureux qui a la foi, qui veut, où sa femme est enceinte, il va chercher des fraises en pleine nuit. C'est la foi. Hein ? Tu fais la même chose, les fraises en Dewachen, t'y vas. Parce que l'esprit est simplement guidé par une non-peur. D'accord ? Et Dewachen, c'est le répit de nos peurs. D'accord ? Dans un premier temps. Alors là, tu connais les enseignements de Dewachen, hein, les différentes façons de renaître, différentes conditions de renaissance en Dewachen. Hein, tu peux passer comme un coup de vent, un peu comme certains êtres humains, hein, qui naissent et ils sont morts-nés. Mais ils sont nés humains. Hein, ne serait-ce qu'à la coagulation, etc. Même une fraction de seconde, leur, cette énergie du désir, charité en lien à l'autre, a fonctionné pour être dans l'instant de deux gamètes. D'accord ? Rien que ça. Il a été un être humain. Né du désir. D'accord ? Un être né du désir. Quoi. C'est-à-dire, la charité, c'est actualisé, c'est acté, hein, en un instant de chair et d'os. D'accord ? Il a créé. Voilà, c'est à ce moment-là. Et ben, c'est comme certains en Dewachen. Ils vont renaître un petit clin d'œil, etc. Mais peut-être pas suffisamment une puissance de cette foi, hein, ou certainement, bien sûr, un manque de total d'intelligence. D'accord ? Il n'y a pas d'intelligence associée à la vacuité, au discernement, voilà, etc. Mais ils seront des. Ils passent comme ça, un coup de vent, comme certains êtres sont passés comme ça, hein, dans le ventre d'une mer, et puis pouf ! Une fausse couche, au bout d'une semaine, ou trois semaines, 8 mois, ou alors mort-né, etc., ça arrive. C'est pour ça qu'on peut estimer des renaissances, une multitude de conditions de renaissance en Dewachen. Alors bien sûr, on préconise d'arriver à aller en Dewachen et d'être totalement en la nature d'Amitabha, c'est-à-dire prendre la place du Père, éventuellement à la droite du Père, ou à la gauche. À droite, il y a Shenrazi, et à gauche, il y a Vajrapani. Moi, j'aime bien faire les parallèles avec la Bible, enfin le christianisme aussi. Hein. On dit le Christ est à la droite du Père, mais à gauche, je verrais plutôt Jean-Baptiste aussi. Ben, je rappelle ni Jean-Baptiste, c'est l'homme de pouvoir. Hein. Hein, il dit je baptise. Hein. D'accord ? Il force les gens, hein, c'est un militant. Hein. Il y en a peut-être même devant, Amitabha derrière, au-dessus. Mais c'est vrai que c'est le mieux, c'est de réaliser la nature de Bouddha, d'Amitabha, donc la sublime félicité, vacuité du discernement. Et là, on rentre vraiment dans une ambition tantrique, pas juste des saucisses. Mais il ne faut pas avoir honte, s'écouter dans ses petits désirs, hein, et se décomplexer aussi du désir. Hein. On a envie d'ouvrir le frigo, tu penses des Dewachen. Tu vois ce que je veux dire, hein? Alors, je ne sais pas si à un moment, avec Mochokpa, il avait bien compris, parce que je parlais très peu anglais, ni tibétain, mais je disais, moi j'aime bien manger, c'est bon, voilà. Plein de gens disaient, c'est bon, je dis, on s'entraîne à Dewachen. Savoir que c'est bon, tu t'écoutes, avoir bon, si tu n'es pas dans le complexe, ça ne devrait pas être bon, je ne suis pas dans l'attachement, toi, tu peux te blinder, hein. Je mange indifféremment, non, pour moi c'est que de la nourriture, je nourris mon corps, mais bon, tu as une gratitude de la chair qui joue, et donc une gratitude après de l'esprit qui vient, et tu fais gratitude, ah merci d'avoir fait ce repas, ou je me fais plaisir, c'est moi-même qui me suis ouvert une boîte de cassoulet, je me suis fait plaisir, tu vois. Tout ça, c'est des watchen, on s'entraîne. Après, on n'est pas obligé d'avoir de l'attachement. C'est pas parce qu'on déclare c'est bon que c'est de l'attachement. L'attachement, c'est, comme on dit, hein, c'est vouloir reproduire les mêmes conditions pour arriver à cette même expérience. Et là, il faut du discernement. Non, c'est fugace. C'est vide de réalité propre, c'est maintenant ou jamais. Point barre. Hein. Mais reproduire les mêmes situations, c'est raté, c'est foutu. L'attachement, là, il va se... Hein. Des Watchen, moi je le vois comme un Woodstock, hein, démocratique et même anarcho, autogéré, etc. Et tout le monde est dans sa propre, à sa propre place, voilà, tout simplement. Et avec la convivialité, etc. Et si on se démerde bien, on peut même côtoyer des Bodhisattvas en Des Watchen, tu vois. Même Kyungpo Neljor, la lignée Champa, il fait le souhait qu'on puisse connaître que lui-même sera en Des Watchen. Mais il n'arrive pas à faire le souhait que tous ses disciples puissent se retrouver en Des Watchen. Alors, ce n'est pas une image de paradis, tiens, bonjour, on se reconnaît. Peut-être pas, mais. Moi, j'aime bien cet aspect mythe. Et qui stimule la foi et l'envie. Hein? Mais toujours avec un discernement. Pas le croire au pied de la lettre. Et ça stimule des facteurs mentaux, une humeur de l'âme. C'est ça qu'il faut déclencher. Rien que ça, tu es délocalisé. Tu as déjà fait un transfert. Tu vois? En t'imaginant. Et je vois très bien des chrétiens s'imaginer leur mort, ils vont retrouver le Christ. Il faut une délocalisation. Il faut un poids poussé par la foi. Et à la mort, ils seront. En paradis. C'est des Watchen, en Eden, si vous voulez. Hein, je repense tout de suite aussi à Thérèse de Lisieux, hein, qui a une vision des Watchen, paradis, Mariana, où elle fait la promesse que puissais-je mon paradis être utile aux êtres. Tu vois, c'est pas juste un petit des Watchen, hein, où tu seras encore enfermé dans tes incompétences mises à contribution. Ben, tu te souviens, des fois on peut être renaître en Néo-Hachène dans un lotus qui peut faire ouvert. Genre. On est un peu autiste. On entend un peu le son de l'enseignement, de la vacuité, à travers Abhidhamma. Ben. Et puis d'autres ont un petit aperçu, hein, ils peuvent dépasser un peu la tête. Hein, tout ça. C'est des types de conditions. C'est pas que les gens sont punis ou pas. C'est pas Amitabha qui décide ça. C'est nos propres forces. Et la foi peut suffire déjà pour toucher ce lieu-là. Et c'est un passage. C'est une expérience transitoire. D'accord. C'est une expérience de l'esprit. On
reste pas des Watchen.
C'est pas un état. On est contaminé par des Watchen. D'accord ? C'est une nature, de la nature d'esprit, où on t'offre plus de lucidité qu'à l'habitude. D'accord ? Même pour celui qui veut une saucisse, tant qu'il n'est pas avec sa saucisse, il ne peut pas envisager de voir plus. On va lui offrir les saucisses qu'il veut. D'accord ? Si on peut être focalisé sur son caprice, je veux les saucisses, saucisses, et tu te coupes du monde, t'es dans des œillères. Alors, les voilà, tes saucisses, voilà, mange. Et puis le mec, il se lève, et il lève les yeux, et puis à la table, il voit, alors, ah, t'étais là, toi, bonjour, ça va? Tu vois, il a eu ses saucisses. Tu comprends? Hein? On a tous ces petites périodes où, hein, enfin, moi, j'en ai en tout cas. Hein, voilà, et on voit bien qu'on est sans lucidité infinie. On est fini, hein, d'accord? Je veux ma saucisse. Et c'est ça qui fait les conditions de renaissance. D'accord ? Mais on a un répit. Un répit face à la peur de ne pas avoir ce qu'on a. D'accord ? On l'aura, sa saucisse. en devotion. Alors, parce que tout nous est loisible. Et après, l'usage de cette loisibilité des apparences, c'est la capacité d'en user avec intelligence. Et on a plus ou moins d'intelligence d'en user. Et en user, c'est ce qu'on appelle, on a traduit par conduite, faire usage de, hein, jouir de, samboga, jouir de. Tout est loisible, comme dans l'Eden. Hein. Jouis maintenant, tout est loisible. D'accord ? Dans des Vachens, c'est les mêmes descriptions. Hein. Tu penses à une cerise, tu auras une cerise. D'accord ? Dans le sens que toutes les apparences te sont loisibles, hein, d'être des apparences, donc ils n'ont aucune intention de te contrarier, hein, ou ils ne te forcent pas d'être heureux, enfin, voilà, etc. Ils te sont loisibles. Et ensuite, le discernement fait que tu fais usage, c'est-à-dire jouir. D'accord ? Donc, qu'on puisse le jouir, ça dépend de notre chose. Que ça soit loisible, c'est de la nature des phénomènes. Tout est dharmadhatu. Tout est phénomène, apparence, loisible. L'univers nous est loisible. D'accord ? C'est pas l'univers qui nous illusionne, il nous punit pas, il nous récompense pas. Il nous est loisible. Tu vois ce que je veux dire, loisible ? Hein ? Loisible, ça veut dire libre, mais en vertu d'une loi. En vacances, en vertu d'une loi. Dans la justesse d'une loi. C'est un mot important, j'utilise sciemment. Hein. Les Grecs parlaient de loisirs, c'était leur temps imparti pour méditer. Aujourd'hui, c'est pour faire bouffe. Voilà. D'accord ? Bon. Pour se reposer sur la plage. Tu vois l'approche, Amitabha ? Se décomplexer de nos désirs, mais discerner si ça vrille en attachement. C'est l'attachement qu'il faut faire attention. Il ne faut pas meurtrir le désir. Il faut réfréner l'attachement, l'analyser, et on voit que l'attachement est inefficace. Mais le désir, ça ne peut pas s'en dessiner un logiciel. C'est le document qui va s'en sortir, qu'il faut analyser, etc., voir s'il n'est pas contaminé, etc. Voilà. Et le logiciel, il faut le garder. D'accord ? Ça va ? Donc l'approche des sutras, la géographie, c'est pour stimuler. D'accord. Ensuite, on a une approche tantrique où on explique la phénoménologie, hein, les facteurs karmiques, comment ça s'instaure pour qu'on puisse s'éveiller. Et tous les efforts qu'on fera iront à cet éveil. D'accord. Et si on fait de l'effort, on ira en devotion. Parce que si on fait de l'effort, c'est qu'on a la foi. Donc la foi seule peut nous amener à devotion, goûter. Si nos efforts n'ont pas abouti dans cette vie-là, il ne faut pas désespérer. Il faut garder la foi. D'accord ? Et se dire, bon ben, je renaîtrai avorton en Dewachen. Hein ? Mais on aura eu un clin d'œil. C'est-à-dire, notre esprit aura un éclaircissement, une petite lueur comme ça. Imagine un zombie, voilà, comme ça, une petite lueur. Hein ? On le voit même ces personnes qui sont très très malade, démence, différentes démences, une lueur chez un Alzheimer par exemple. D'accord ? On a des lueurs aussi de compréhension et les yeux brillent, hein, d'accord, etc. Voilà. En Dewachen, on aura peut-être une petite lueur. Cette lueur est indélébile. C'est-à-dire, on a touché le fin mot d'Amitabha, c'est une luminosité qui est une petite brèche, elle n'est pas infinie, elle ne connaît pas la plénitude de tous les aspects, c'est une formule sadja. La vacuité qui reconnaît la plénitude de tous les aspects des apparences. C'est l'Eden, c'est ça. On aura une petite lueur. Et il faut s'estimer heureux et dire merci la foi. Sans la foi, j'aurais pas eu cette petite lueur. Sans ce petit répit où j'ai arrêté d'avoir peur. Je les aurais, mes saucisses. Tu vois ? C'est ça, hein ? Donc on a les efforts, on a des pratiques qui vont nous donner la possibilité de s'éveiller au sens tantrique du terme, c'est réaliser Amitabha. Mais si on n'a pas de réalisation, il ne faut pas s'en inquiéter. Enfin, il ne faut pas s'en inquiéter, il ne faut pas se meurtrir. D'accord ? Et lâcher le bébé et l'eau du bain. D'accord ? C'est, voilà, c'est comme ça, on a eu des obstacles, etc. Mais grâce à Amitabha, on touchera des Wachen. Et on aura comme un vaccin. J'aime bien aussi les vaccins qui viennent de vacuum, vache, tout ça. On aura un vaccin pour une vie future. Parce qu'on passe par une case des Wachen, mais ce n'est pas un état, ce n'est pas un lieu. C'est avoir un clin d'œil sur une nature inhérente qu'on appelle lumière infinie. Discernement, lucidité, mais qui va être partielle. Ben, on va renaître avec ce petit truc. Et on aura plus de chances à rencontrer d'autres éléments déclencheurs qui vont réélargir la brèche. D'accord ? Il ne faut jamais... tu te souviens, dans la préparation à mort, ne jamais désespérer de la lumière. D'accord ? La lucidité, l'éveil. D'accord ? Elle s'impose, de toute façon, elle s'imposera, alors, pas par magie, etc., parce qu'on mettra des conditions, mais à un moment, on a tous un moment où on place, je ne sais pas, il y a une conjonction de facteurs mentaux, de karma, et puis, pof, la lumière passe. Tu fais une conjonction de 2-3 serrures, elle passe. D'accord ? Et des fois, c'est presque par magie, enfin, on fait des conjonctions comme ça, parce que dans un moment clair, on est honnête, on se pose réellement des bonnes questions, puis pof. Tu as vécu des choses comme ça aussi, voilà. C'est ajustement. Donc, je parle beaucoup. Je suis inspiré, tu m'inspires. On est entre nous, tranquille. Donc la génération du Dakye, on commence avec Shenrezi, Ji, verbe germe de ma nature innée. Le verbe, pour moi, c'est un terme important qu'on trouve dans notre enseignement biblique ou chrétien. Le verbe, ça veut dire un langage. Et un langage veut dire une cohérence, un logos, une logique. D'accord ? Et un langage, c'est beaucoup de mots. Ici, on est dans le bija, c'est la lettre germe, la lettre initiale. Et il faut le voir comme étant l'ADN, la plus infime particule d'ADN de notre karma. D'accord ? Du karma éveillé, trimné. La plus infime particule de gène, tu l'as, pouf, t'es génasi, tu vois ? C'est la programmation où tu es programmé à l'activité, là. L'actuation, l'actualisation, d'accord, de la compassion inhérente à ton esprit. Pas de devenir compassionné. Compassion, même, c'est limite comme mot. Mais voilà. Mahakura Karuna, la grande bienveillance. Je préfère bienveillance. D'accord. De ma nature innée. Ça va Je lis. Voilà. Alors c'est là que tu le prononces, etc. Mais il faut voir juste un graphisme comme une empreinte sur les vaches, comme les cow-boys qui ont. T'es tatoué de ça. Ton âme est tatouée de ce lettre germe, de cet ADN germe. Voilà. Le gène. Voilà. Tac. On est tous tatoués de ça. Et on va le réactiver. Verbe germe de ma nature innée. Initiale de ma bodhicitta. Ça va ? Rien que la visualisation de cette lettre germe peut nous ramener à une récapitulation et purifier tous nos voiles au moment de notre naissance de cette vie. J'insiste beaucoup là-dessus. D'accord ? Moi, sous l'aspect d'Avalokita, alors on prend un aspect anthropomorphique, j'aime bien dire humanoïde, d'accord ? Sous forme humaine, d'accord ? Mais attention, c'est apparent mais vide de réalité propre. C'est un aspect. Donc, sous l'aspect de Avalokita, avec toute la description qu'on connaît, j'apparais union de clarté vacuité, union de clarté vide. C'est-à-dire, c'est, ça se révèle, clarté, d'accord, vide de réalité propre.
Oui.
D'accord. Si on ne saisit pas cette clarté comme étant véritable, vrai, il y a réellement un chêne résil, blanc, machin, etc. D'accord. C'est l'union de clarté vacuité. Ensuite, du cœur, le riz obstrue toute naissance, voilée par la soif et la saisie. Oui, j'avais dit que je t'avais dit qu'on allait faire quand même une accumulation de mantras. Hein. Donc il aurait fallu que je fasse la génération d'Amitabha. Tu as un texte d'Amitabha? Je vais voir si j'en ai d'avance. Je vais te l'imprimer. Mais il faut mieux que tu prennent ces 5 jours-là, d'accord. Mais tu peux visiter ça quand même. Hein. Mais tes sessions, tu vas faire les récitations de mantra d'Amitabha. De toute façon, tu la connais, la pratique. Si tu n'as pas le texte, tu génères, hein, c'est tout. D'accord.
T'as un texte en français?
Oui, j'avais écrit une petite compilation en français. Hein, je peux te l'imprimer. Voilà. On va arrêter là, il est 19h. Mais tu peux t'entraîner à obstruer les 8 orifices inopportuns. C'est pour ça que je t'ai donné la photocopie. Hein? D'accord. Avec la lettre J, donc de notre cœur, le J va envoyer des faisceaux, comme on enverrait de l'électricité, un ordre, d'accord, sur les différents orifices ordinaires. Mais qui sont inopportuns au moment de la mort. Il ne faut pas être focalisé par ces orifices au moment de la mort. Alors, ce n'est pas que la conscience va sortir de là, mais on dit souvent qu'elle sort de là. C'est simplement, on est focalisé. Ces 8 orifices, ils sont dits ordinaires. Donc, il y a les orifices du bas, l'orifice génital, l'orifice urinaire. Pour l'homme, c'est le même. Enfin, c'est le même conduit, je crois, à la fin. Hein. D'accord. Mais on va en deçà, on va à l'essence, enfin, au sortir de la vessie, hein, pour l'urinaire, éventuellement. Mais il ne faut pas trop localiser anatomiquement, etc. L'orifice anal, le nombril, qui est un orifice bouché, hein, mais il était un orifice, hein, un conduit. Les yeux, les deux yeux, alors ça fait un seul orifice, les deux yeux. Les deux oreilles, ça fait un seul. Alors des fois, les commentaires varient. On met un orifice intersourcilier aussi. Les deux yeux plus l'intersourcilier. On a un orifice 8 doigts après l'intersourcilier. Ici, au centre, là. C'est l'orifice pour les mondes des dieux sans forme, qui est associé à une sorte d'échappatoire, dans une sorte de félicité due à l'inertie, la sensation. Ce n'est pas l'orifice Brahma. L'orifice Brahma est plus loin, 4 doigts plus loin. Et là, donc, c'est les orifices ordinaires, on parle. 8 orifices, inopportuns. On les associe à nos mondes, etc. Tu n'es pas obligé de le savoir quand tu le médites. C'est simplement s'entraîner, entraîne-toi à penser, à les penser, à les ressentir sensitivement, mais surtout de quoi, comment c'est connoté. D'accord ? Que ce soit connoté des orifices satisfaisants qui apportent satisfaction ou qui apportent insatisfaction. Et bien, si tu es focalisé là-dessus, tu t'éveilles pas, tu ne sors pas par l'orifice de Brahma. D'accord ? Tu es focalisé comme ça, toutes tes réserves se feront, D'accord ? Et ta conscience, en quelque sorte, partira avec la dernière image d'une satisfaction d'un orifice ou une insatisfaction d'un orifice. C'est pas juste la satisfaction. D'accord ? On sera hanté, hein, par ce type d'orifice. D'accord ? Alors, on dit c'est tel type de renaissance. Je veux bien le croire. J'ai pas l'expérience, là. D'accord ? J'ai pas d'expérience, mais je veux bien le croire, hein, par association d'idées. Mais attention, il ne faut pas être non plus puritain. C'est savoir ne pas être focalisé à ce moment-là. C'est pas le moment de trouver satisfaction. On a tous une satisfaction quand on fait pipi, hein. Un soulagement, c'est une satisfaction de soulagement, hein. Oh, c'est bon, hein, on a tous dit ça. Eh bien, c'est connoté, cet orifice. Si au moment de mourir, tu meurs la vessie pleine, d'accord, ben, ton habitude, c'est vite, je vais faire pipi, et, je vais me soulager. Non, c'est plus le moment là. Tu passes à l'orifice Brahma. Tu te délocalises. D'accord ? C'est ni, il ne faut pas le voir comme un bien mal moraliste. Hein, parce que là, on est foutu. Hein, voilà. D'accord ? Parce que surtout avec l'orifice anal, certains y trouvent du plaisir, de satisfaction. La satisfaction anale aussi, Freud en a parlé. Hein. Bon, c'est un peu réducteur, mais pourquoi pas ? Mais aussi, ça dérange. C'est connoté, ah, c'est caca, c'est pas bien. Ni l'un ni l'autre. C'est pas le moment d'y penser. C'est ça qu'on dit. Mais si on rentre dans le puritanisme, etc., ben, on peut juger que le plaisir anal, c'est malsain, c'est immoral. Ça, c'est pas de notre ressort, ça. D'accord ? Mais au moment de la mort, oui, il faut pas y penser. D'accord ? C'est surtout ça. Je sais parce que je réponds à ça, parce que souvent, les Tibétains, ils sont très homophobes, hein. Sodomie, etc. Une fois, il y a une nonne lama, Rinchen, m'avait raconté une anecdote comme ça. Il y avait deux moines qui étaient très, très, très féminins, machin, etc., etc. Et voilà. Et puis à un moment, je ne sais pas ce que dit Rinchen, mais à un moment, ces deux-là se reprennent comme ça et disent l'homosexualité est malsaine, c'est démon, c'est très archaïque, quoi, hein, etc. Et alors, soit c'est des homosexuels, comment on peut dire, contrariés, hein, alors c'est lourd, il faut mieux l'assumer. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention, hein, on ne rentre pas dans un puritanisme. Ces orifices apportent satisfaction et apportent insatisfaction. Ni l'un ni l'autre. D'accord ? Si on commence à avoir un dégoût, hein, d'une zone sous prétexte qu'elles sont inférieures, il y a des gens qui ont un dégoût, hein, de tout ce qui est dans le slip, hein, etc. C'est foutu au moment de la mort. Tu es hanté de cela. Tu meurs avec. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qu'il ne faut pas. Après qu'on puisse avoir un plaisir physique, moi ça ne me dérange pas. D'accord ? Voilà. On peut avoir une satisfaction de l'oreille. Et les gens qui sont des musicologues, comment on dit ?
Mélomanes.
Hein ? L'oreille, ils sentent. Et l'organe organise une satisfaction de l'oreille. Savoir discerner avec l'oreille, hein, etc. Il y a une jouissance. Il y a une jouissance du palais, tout ça. Donc chaque orifice, pourquoi ils sont inopportuns ? Moi, je mets inopportuns. Dans certains textes, la traduction de certains textes tibétains traduits en français, c'est impur. Et là, je ne suis pas d'accord, parce que ça va être connoté. D'accord ? Hein ? C'est inopportun à ce moment-là donné.
Le nombril,
c'est une porte d'accès de satisfaction qui est associée au, ça doit être écrit dans mes notes, au monde du dieu des désirs. Hein. C'est le cordon ombilical par où on a une nourriture. Et bien, ça continue avec le repas. Moi, j'ai cette capacité de satisfaire du repas, etc. Après, on s'en sert justement pour faire tout mot, garder un chakra. Hein. Heureusement, on utilise tout. Hein. Mais on sent bien hein, cette zone-là, d'accord, ça rappelle hein, cette satisfaction, on dit repu, etc. Ça rappelle nos souvenirs, nos bons souvenirs, on était liés avec le cordon ombilical, nourri, logé dans le ventre de sa mère. D'accord ? Et bien ça, c'est un plan du Dieu de désir. Hein, une pseudo-félicité, hein, c'est-à-dire ils utilisent la satisfaction du désir par désœuvrement, nourri, logé. Tu vois ? On peut la. Je sais pas. Cette image, voilà, de épicurienne, si tu veux. Hein, j'ai rien. Épicure n'était pas épicurien, hein, malheureusement. Hein, c'était un stoïcien aussi. Hein, mais épicurien au sens galvaudé du terme. Hein, ou plutôt, comment on dit, hédoniste. D'accord ? Dans l'hédonisme, on abuse du désir, d'accord ? Juste pour être. Voilà, un peu dans repu, hein, la peau du ventre bien tendu, voilà. Moi, je le vois bien, cette association. D'accord hein. Et là, c'est pas le moment de penser à son ventre, quoi. Ventre, nombril. Hein. On dit nombril parce que c'est un orifice qui va repartir. On va renaître en repartant de là. Je sais pas, tu as déjà médité aussi. Hein, c'est en ce lieu-là aussi qu'on voit, on appelle ce chakra, pardon, je bafouille, ce chakra, on l'appelle Nirmana chakra, le chakra d'émanation. C'est de là où tu peux être en lien aux six mondes de la soif. D'accord ? On a comme six cordons ombilicales en puissance, toi. Hein, comme dans la matrice, Matrix, les liens avec cordon ombilical, voilà, karmique, ça te parle?
Oui. Hein?
Donc là c'est le de mémoire, je dis, hein, parce que j'ai pas la photocopie, mais c'est ça, hein, c'est le monde des dieux du désir.
C'est juste.
Hein? Monde des dieux avec forme, je crois que c'est l'intersoucilier, et le monde des dieux sans forme.
Mais l'orifice de Parma. Dieu sans forme. Brahma, c'est ici.
Non, alors.
Parce qu'il y a deux.
Il y a deux de Brahma.
Parce qu'il y a Brahma avec un B majuscule.
Voilà.
Dieu sans forme. Il y a Brahma avec un B minuscule.
Voilà.
Ça, c'est l'orifice pur de toute identification par lequel.
Voilà. Il y a
ici,
deux.
Brahma.
Voilà. Il y a l'orifice de Brahma avec un B majuscule.
Ouais. Hein,
qui ici au centre du crâne, c'est-à-dire. Tu fais 8 doigts à partir de l'intersoucilier, là.
Ah oui, ici.
Voilà.
Ici.
Okay. Et après, plus loin, 4 doigts plus loin, tu as l'orifice Brahma.
Brahma.
C'est une épithète. Mm. D'accord ? C'est pas le nom du Dieu. De Brahma, c'est pour montrer le complexe de pureté. Mm. D'accord ? Quand on a. Des problèmes justement avec le sexe, avec la chair, le vent, machin, on sublime tout, on s'élève et on se croit au-dessus de la foule. D'accord ? Et ça donne une certaine félicité. Tu es au-delà des formes. D'accord ? Hein ? Tu te la joues, tu te prends la grosse tête, quoi, etc. Donc tu es au summum hein, d'une hiérarchie où justement tu touches rien. Les formes, c'est ça. Voilà. D'accord ? Tout ça, voilà. C'est maniéré, on va dire, le monde des dieux sans forme. D'accord ? Sans forme, ça veut dire sans agrégat forme, mais il y en a toujours un peu, hein, 0,0001. On ne peut pas enlever un agrégat, un processus cognitif à l'esprit, mais il est inusité, par déni, par refus, et ce refus nous amène à une félicité. D'accord ? Une pseudo-félicité. Donc c'est ça le monde des dieux sans forme. Et donc, on dit de Brahma, parce que là, c'est pas sympa, on range le brahmanisme là-dedans. D'accord ? Qui veut être propre, toujours propre, hein, ablution, machin, blanc sur soi, etc. Tu rentres dans la cuisine d'un brahman avec tes chaussures, t'as tout souillé, quoi. L'atmosphère, elle est. Se chuchote, quoi. Tu vois, c'est chuchote, quoi. Hein. Et c'est. c'est teinté pour eux de religiosité. C'est une posture pour moi, une posture religieuse. C'est pas tous les brahmanes qui sont comme ça, mais il y a plein d'anecdotes comme ça où Sakyamuni rencontre un brahmane et il dit la pureté c'est ça, et il dit non. C'est un peu comme le Christ qui rencontre des érudits dans la loi hébraïque, la loi juive. Il dit la sabbat c'est ça, on ne travaille pas le vendredi. Non, c'est pas ça, sabbat, c'est autre chose. Ouais. Il reformule la vue. La pureté, on peut en parler, mais c'est autre chose. La pureté, c'est justement ne pas avoir de discrimination. Et donc, il y a maintenant l'orifice Brahma, et là, c'est l'épithète d'un mot sanskrit, pas d'un dieu. Et c'est pour ça qu'on ne met pas de Brahma. Là, c'est l'orifice d'un dieu, d'un accès à un monde divin, d'accord, qui est mis en cause dans l'enseignement bouddhique. C'est clair. Qui seraient des complexes d'union, de symbiose avec la pureté primordiale, le tout esprit, rien qu'esprit, hein, c'est l'esprit sans le corps, voilà. Alors effectivement, tu fais un déni de l'agrégat corporalité, de l'agrégat forme. Et l'orifice Brahma, c'est l'orifice pur de toute identification, de toute discrimination, d'insatisfaction, insatisfaction, à un moment donné. Tu quittes toute discrimination, ben tu recontactes l'orifice de ton canal central. Et là, il y a une déviance avec le monde des dieux. D'accord ? Et là, si on bouge tout orifice, c'est ne rien penser, quoi. Mais il faut déjà un peu les localiser. D'accord ? C'est pour ça qu'on les fait. Hein ? Tu peux t'entraîner, déjà. Ça peut être une introduction aussi à la pratique d'Amitabha, même si on ne fait pas un pot. Hein. D'accord ? Donc là, je te donne un peu ça, puis après, on parlera d'Amitabha, je te donnerai le texte.
Merci.
Ça va pour ce soir ?
Oui, oui. Et si je me rappelle pas,
voilà. T'imagines, tu les notifies. Bon, c'est là, bon, d'accord, je passe à autre chose. Ça, c'est ça. C'est pas bloqué dans le sens où je rejette. Il faut être très très subtil. Hein. D'accord ? Parce que la conscience, elle ne connaît pas la négation. Hein. Tu dis, je m'interdis de penser à ça, tu vas le penser. Pour te l'interdire. Mais n'empêche que karmiquement parlant, tu es en lien à ça, tu es aliéné. Et donc, tu meurs avec ça, tu l'apportes avec toi, cet orifice. Enfin, la satisfaction qui est connotée ou l'insatisfaction qui est connotée.